Dans ce journal, on fait un tour à Paris où les élus ultramarins ont rencontré Emmanuel Macron. On vous parle aussi d'un rapport sur la pollution plastique et de cet événement autour des Jiménez ce week-end. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
À Paris, le président de la République a reçu ce vendredi une soixantaine d'élus des Outre-mer lors d'un déjeuner de travail.
Il s'agissait d'évoquer la réforme constitutionnelle souhaitée par plusieurs territoires d'Outre-mer. Ce rendez-vous s'est inscrit dans la suite du comité interministériel aux Outre-mer tenu en juillet dernier et qui avait donné lieu à l'annonce de 72 mesures. Alors ce vendredi, sur la question constitutionnelle, et alors qu'on pouvait croire que la réforme annoncée début octobre par Emmanuel Macron serait général, eh bien ce dernier a précisé aux élus que la Nouvelle-Calédonie était un sujet en soi. Pour autant, le président a entendu les attentes d'une évolution institutionnelle dans d'autres territoires, mais celles-ci ne seront pas concrétisées dans le même calendrier que la Calédonie, dont l'adoption d'un futur statut est fixée par le chef de l'État au premier trimestre 2024. Pour les autres territoires, le chef de l'État a annoncé le lancement dès le mois prochain d'une période de consultation avec des experts mandatés pour, je cite, rencontrer l'ensemble des élus pour faire des propositions territoriales. Par territoire. Pour une éventuelle révision en Polynésie, il faudra donc attendre. Après la réunion, Tematei Le Gaïc a expliqué qu'il était nécessaire de trouver un consensus local. Rappelant que le gouvernement polynésien est indépendantiste, il a déclaré, je cite, qu'on viendra proposer une révision constitutionnelle pour la décolonisation et l'indépendance de la Polynésie.
20 préconisations pour mettre un terme à la pollution plastique ont été présentées ce matin.
Oui, alors qu'une troisième session de négociation des Nations Unies s'ouvre en novembre pour tenter de définir un traité mondial ambitieux face à la pollution plastique, le CESE s'est saisi du sujet en proposant 20 préconisations afin d'aboutir à un texte efficace sur cette question. Leurs autrices Sabine Roux de Bézieux et Nathalie Vandenbroek sont actuellement à Tahiti. Elles ont présenté leur rapport à Moetei Brotherson hier avant de passer devant le CESE ce matin. Océanographe de métier et présidente de la Surfrider Foundation Europe, Nathalie Vandenbroek travaille avec sa collègue depuis plus d'un an sur ce rapport.
Alors oui, on a travaillé déjà sur la forme juridique du texte que devrait prendre ce traité pour nous. On a travaillé aussi sur des moyens de financement, c'est important, et ensuite sur vraiment différentes préconisations qui concernent tout le cycle de vie du plastique pour vraiment aider les négociateurs à avoir des solutions concrètes, que ce soit au moment de la fabrication du plastique lui-même, puis l'utilisation des produits plastiques et enfin le traitement de la fin de vie.
Ce document d'une trentaine de pages est consultable en ligne sur le site du CESE. Alors parmi les préconisations, la réduction de la production de plastique, bien sûr, la mise en place d'une notion d'empreinte plastique, la définition d'objectifs en termes de recyclage ou l'interdiction de principe des plastiques à usage unique d'ici 2040. Les deux autrices du rapport qui se disent frappées de voir l'intérêt suscité par le sujet en Polynésie et qui ressortent très positives de leur échange avec Moetei Brotherson. Elles ont désormais les yeux rivés vers Nairobi, la capitale du Kenya, où la troisième session de négociation s'ouvre le mois prochain. On écoute Sabine Roux de Bézieux, membre du CESE et présidente de la Fondation de la Mer.
Nous allons suivre de façon très attentive les négociations et surtout les opinions des pays, puisque pour la première fois, une version martyr du projet de traité a été rédigée, avec toute une série d'options. Et donc, ce qui va se passer à Nairobi est très important, puisque des décisions vont être prises sur les différentes options et vont donner un petit peu le niveau d'ambition du traité, s'assurer que l'ambition sera à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire éradiquer toute pollution plastique dans la nature d'ici 2040.
Et après le Kenya, deux nouveaux temps de négociations sont prévus au Canada puis en Corée du Sud. La conférence d'adoption du futur accord est espérée pour 2025. Reste à savoir si les préconisations du CESE seront adoptées ou non. L'interview complète de Sabine Roux de Bézieux et de Nathalie Vandenbroek est à retrouver sur la page Facebook de Radio 1.
Les métiers du secteur primaire tentent d'attirer.
Oui, la première édition du Forum des métiers du primaire et de l'artisanat traditionnel s'est tenue hier à l'Assemblée. Alors elle avait pour but de mettre en valeur le secteur primaire et les savoir-faire des nombreux artisans locaux. Susciter des vocations était le mot d'ordre de cette manifestation, mais aussi présenter les différentes formations et aides à la disposition de ceux qui désireraient se lancer dans ce domaine. Alors stand des métiers de l'artisanat, des métiers de la mer, des lycées agricoles ou professionnels, ou encore stand des organismes de financement, tous ont fait le plein de visiteurs, tant d'adultes que d'adolescents. Tuere Nuitoofa, technicien agronome au sein de la Chambre d'agriculture, regrette qu'en son temps, ce type d'événement n'existait pas.
Les jeunes sont très demandeurs parce qu'on essaie de leur faire comprendre que le secteur primaire, si c'est le secteur primaire, c'est que c'est le début de tout. Du coup, voilà, pour manger, il faut planter déjà. Et puis économiquement, c'est quand même quelque chose de durable parce qu'on va toujours manger. Du coup, on achètera toujours à manger, quoi. Donc, si tu es le premier maillon, le reste y suit. Et puis économiquement, il y a pas de souci pour écouler les produits locaux, je parle. Hein.
Autre passionnée, Tebahine Teariki, elle est artisane et cette journée est en quelque sorte une reconnaissance pour elle et son travail. Sur son stand, beaucoup de jeunes et beaucoup de questions dont une revenait souvent. Peut-on vivre de l'artisanat? Et pour Tebahine, la réponse est oui, mais à condition de se diversifier.
Ben, il y a eu beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont passés les heures. Il y a eu beaucoup de questions. Il y en a, c'est une découverte pour eux. Il y en a qu'en regardant comme ça, ils ne savent pas que c'est un palmier une fois qu'il est, il est travaillé. J'ai l'impression que c'est nouveau pour eux. La question, c'est pourquoi tu as choisi ce métier? Est-ce qu'on peut en vivre? Je dis oui, ça fait 13 ans que je vis de l'artisanat. Donc, pour l'artisanat que j'ai fait, ce n'est pas juste la vannerie, c'est de la couture, de la fabrication de bijoux. Enfin, il faut diversifier. Au fait, il faut être à l'écoute aussi des personnes qui sont en face de toi.
Et de toute évidence, ce forum des métiers du primaire et de l'artisanat traditionnel a atteint son but, celui de susciter des vocations. Reste à espérer qu'une deuxième édition suive.
Et une table ronde sur les sujets LGBTQ+ se prépare.
Oui, dans la continuité du programme du Tavini qui s'engage à promouvoir l'égalité des sexes et la diversité sexuelle et de genre dans tous les domaines, et bien pour la première fois en Polynésie, un état des lieux va être dressé sur le thème des discriminations rencontrées par les personnes LGBTQ+. Les 7 et 8 novembre, la table ronde abordera plusieurs sujets liés aux diverses formes de discrimination dont souffrent ces communautés. L'événement sera ouvert au public.
Un ouvrage centenaire traduit en Réo Tahiti.
Oui, ce matin, la traduction en Réo Tahiti du célèbre livre Le Prophète de Khalil Gibran a été présentée par les élèves de licence en langue polynésienne à l'UPF. Un travail qui marque le centenaire de la parution du livre, l'un des plus populaires au monde. Pour les étudiants et leurs professeurs, c'est l'aboutissement de 7 mois de travail collectif avec l'appui de l'Académie tahitienne. On écoute Joseph Maroun, consul honoraire du Liban en Polynésie. Il est à l'origine de ce projet.
On sert la culture et les langues polynésiennes, une moralité en quelque sorte, sans être donneur de leçons. C'est l'amour, la fraternité, ce dont on a le plus besoin de notre époque. Avec des étudiants, des jeunes qui ont fait la traduction, avec une enseignante extraordinaire, Mme Karine Diokadi, tout ça, ça fait un bouquet magnifique. C'est émouvant. Même jusque maintenant, j'ai des frissons quand j'en parle tellement. Et si on doit parler de la beauté, c'est la beauté d'être ensemble, travailler ensemble pour un ouvrage qui prêche que l'amour et la paix et la fraternité universelle.
Et les élèves, comme les nombreuses générations avant eux qui ont fait du prophète un livre essentiel de leur développement personnel, ont été touchés par le message universaliste de Gibran qui voulait faire une synthèse des messages de la chrétienté et de l'islam, un ouvrage donc bientôt en Réo Tahiti.
Et puis on vous parle de la 7e édition du Taurua Himene, placée cette année sous le signe du Ruo.
Oui, l'événement dédié au groupe de chant traditionnel est de retour demain à la Pointe Vénus. Et le thème choisi cette année donc est centré sur le Ruo, chant aux mélodies lentes et au cours desquelles des voix différentes sont mises en valeur. C'est le chargé de communication de la Maison de la Culture, Alexandre Tenaillot, qui nous en dit plus.
C'est ce chant plutôt lent où on reconnaît les femmes du groupe qui ont le doigt posé sur la bouche et qui se balancent de gauche à droite. On a choisi ce chant parce que c'est un chant vraiment très riche quand même. Hein. Il y a environ 6 à 7 voix différentes. Et puis cet événement, il a quand même pour objectif également de faire comprendre les chants, de faire connaître les différentes voix qui sont à l'intérieur d'un groupe, pourquoi une voix fait ça, pourquoi elle est placée à cet endroit-là dans le groupe. Et le Ruo était un bon moyen d'avoir de la richesse, on va dire, dans les explications.
Et près de 500 chanteurs répartis en 8 groupes ont répondu à l'invitation de la Maison de la Culture. À partir de 15h30, c'est un public familial qui est attendu. Et en comptant les plaisanciers déjà présents sur le site, l'organisation espère toucher 1 millier de spectateurs qui pourraient donc être séduits par l'envie d'en apprendre un peu plus sur le chant. Des précisions qui seront dispensées sur place par les incontournables Mama Yopa et Daina Tavaeri. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité avec le flash de 16h.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
Et on est parti pour la suite de cette Coupe du Monde de rugby à 15 2023. Ça y est, la première demi-finale a eu lieu ce matin. Et pour en parler, je suis avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de rugby. Yorana Gilles.
Yorana Kevin, Yorana à tous.
Ça y est, le premier match, la première demi-finale a enfin eu lieu. C'était la Nouvelle-Zélande contre l'Argentine du côté du Stade de France, Saint-Denis forcément. Le match avait lieu ce matin et quelle victoire de la Nouvelle-Zélande, quelle victoire!
Oui, bah écoute, Mais la Nouvelle-Zélande se hisse en finale, hein, après cette démonstration quand même face à l'Argentine. La Nouvelle-Zélande, ils n'ont jamais tremblé. Il y a eu une domination sans partage et ils ont inscrit quand même 7 essais. Et les Pumas, comme on dit, ont été dépassés dans tous les secteurs, malheureusement.
Exactement. Ils ont poussé les 5 premières minutes. Après, on ne les a plus vus du match du tout. Surtout qu'en plus de ça, la Nouvelle-Zélande a quasiment terminé le match à 14.
Oui, à 14. Bon, bah, écoute, ils n'ont pas pris de risques avec un joueur qui a pris un carton jaune. Mais ça n'a pas changé le cours du match, loin s'en faut. Donc, la Nouvelle-Zélande, avec brio, hein, pour cette première demi-finale, il faut les féliciter. Voilà, et donc ils se qualifient pour la 5e finale de leur histoire. Et bien sûr, ils espèrent gagner. Et évidemment, ça va être un des grands favoris.
Demain, deuxième demi-finale, l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. On en a parlé. Rendez-vous bien sûr lundi pour connaître et en parler de ce résultat de ce match-là et connaître donc officiellement l'affiche finale de cette Coupe du Monde de rugby à 15 2023. Du rugby également local, mon cher Gilles.
Oui, bah écoute, samedi après-midi à 13h30 au Stade Fatawa, il y a tournoi d'un 7 senior avec 6 équipes des clubs de Tahiti et Moorea. Voilà, et la semaine prochaine, on a une grosse semaine scolaire, rugby scolaire, puisqu'on aura mardi et jeudi du rugby scolaire. On attend sur les deux sites à peu près, en tout, à peu près 1000 élèves. Voilà, festival scolaire Coupe du Monde de rugby en partenariat avec l'UCEP et l'USSP.
Voilà, on a fait le tour.
Eh bien écoute, on a fait le tour et puis encore félicitations aux All Blacks, félicitations au parcours aussi des Argentins puisque eux ont pu faire une demi-finale. Et on attend avec impatience le match demain qui peut-être et j'espère sera un peu plus serré.